Mémoire sur Edward Burroughs, suite, chapitre vie. Cette année-là, il écrivit aussi ce qui suit, une deuxième épître générale à tous les saints serviteurs du Seigneur et ministres de Jésus-Christ, à ceux-là ordonnés et appelés par l'opération puissante et le don du Saint-Esprit, à tous ses frères dans la même vie, qui sont nés de Dieu et témoins de sa puissance, et à tous les saints et églises du Christ, qui ont cru et reçu le témoignage certain et fidèle, et sont appelés par l'appel céleste à suivre l'agneau partout où il va, lui qui vous ordonne. Vous tous qui êtes dispersés dans le monde, soit enchaînés, soit libres, soit hommes forts, soit enfants en Christ, j'adresse mes salutations, et par-dessus tout, je désire et je prie le Père pour que vous croissiez dans la connaissance de lui et dans la fidélité à toutes ses voies, et pour que l'accroissement de son gouvernement abonde parmi vous, et pour que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient largement multipliées, afin que rien ne vous manque en rien de ce qui rend parfait, mais qu'en Jésus-Christ vous soyez accompli, et que par lui vous reçoivez. Mes bien-aimés, chers à mon cœur et ardemment désirés, dans la communion de cet Esprit qui vous a engendré pour être fils et filles d'un même Père, héritiers et co-héritiers de cet héritage de vie, de paix et de repos qui demeure à jamais. Ô combien je désire vous rencontrer tous en cela, et vous trouver parfaitement affermis et établis sur le fondement sûr que Dieu a posé parmi vous, au-delà de tous doutes, peurs et trébuchements, au-dessus du monde et de toutes ses tentations, et au-dessus de l'enfer et de la mort, et de toutes leurs voies, ayant toutes les puissances des ténèbres assujetties sous vos pieds, servant le Seigneur dans une sainteté parfaite, marchant dans sa force et sa sagesse, faisant briller sa lumière dans le monde comme son peuple racheté. Mon désir s'enflamme et s'élargit de plus en plus envers vous tous, afin que vous parveniez pleinement à la connaissance du grand mystère du salut, à savoir, Dieu habitant en vous. Je dis, mon désir est que vous connaissiez comme vous êtes connu, et que vous le receviez comme vous êtes reçu par lui, et que vous soyez un corps parfait, croissant ensemble, et portant en abondance tous les bons fruits de vérité et de justice pour le Père, qui est glorifié lorsque vous portez beaucoup de fruits. Vous savez très bien que c'est pour cela qu'il vous a appelé, et qu'en ce jour qu'il a fixé, il a fait resplendir sa gloire et nous a visités, nous conduisant à la connaissance du mystère caché du salut éternel, mystère scellé pendant de nombreux siècles et tenu à jamais secret à la sagesse de ce monde. Mais pour nous qui avons cru à la lumière du monde, cela est dévoilé avec une clarté aussi évidente que le plein midi, nous étant révélé par l'Esprit qui opère en nous la volonté et la pensée du Père, et qui est puissant et fort, et soumet et brise la dureté du cœur, et par son action toute pensée élevée est amenée à l'obéissance à Jésus. Ce même Esprit vivifie et rend vivant pour Dieu, et transforme et renouvelle à son image et à sa ressemblance, et relève de la servitude de la corruption, pour vivre pour Dieu en toutes choses dans la nouveauté de vie, les choses anciennes étant abolies, et toutes choses devenant nouvelles par son œuvre. Dans ce même Esprit, le Père seul est adoré, et par lui Dieu est connu, et sa promesse s'accomplit, lui rendant témoignage en toutes choses au Père, et étant lézard de l'héritage qui ne se flétrit point. Par lui, nous connaissons les choses profondes de Dieu, que le monde, par sa sagesse, ne connaît pas, et par lui nous sommes scellés et liés par alliance avec le Père. Cela est connu de vous qui êtes enfants de la lumière, par laquelle vous avez le témoignage en vous-même, et vous êtes approuvés de Dieu, et non des hommes. Vous tous, mes frères, qui êtes appelés à l'œuvre et au ministère de l'Évangile, en qui la parole du Seigneur est venue, et à qui l'Évangile du Christ a été confié, demeurez dans la vie de Dieu et sentez sa puissance et son autorité. Vivez dans la même vie que ce que vous servez aux autres, afin d'amener les gens à Dieu, et de les détourner efficacement de la domination du péché vers la domination de Jésus-Christ, pour qu'ils soient conduits hors des ténèbres dans la lumière merveilleuse. Criez à pleine voix, n'épargnez pas, proclamez le jour puissant du Seigneur dans toute la terre, et ne craignez pas, ne vous troublez pas devant aucun homme, mais soyez hardis et vaillants pour la vérité sur la terre, et rendez votre témoignage comme vous l'avez reçu de Dieu. Prêchez Jésus-Christ, la lumière du monde, à tous les hommes, afin qu'ils le reçoivent, soient convertis et vivent, car l'aveuglement et les ténèbres ont couvert toute la terre, et tous se sont égarés loin du Seigneur, comme des brebis sans berger. Réveillez donc ceux qui dorment, faites entendre les sourds, et ressuscitez les morts, afin que ceux qui se sont égarés soient rassemblés. Car voici la plénitude des temps, il cherche maintenant ses brebis perdues et ramène celles qui se sont écartées, et vous, instruments dans la main du Seigneur, il vous a choisi pour cette œuvre. Poursuivez donc, dans la force du Seigneur, et prêchez l'évangile de paix, c'est-à-dire la puissance de Dieu, afin que les pécheurs soient convertis, que les blessés soient guéris, que les faibles soient fortifiés, et que ceux qui sont prêts à mourir soient restaurés à la vie et au salut. C'est l'œuvre du Seigneur à laquelle vous êtes appelés, que tous ceux qui y sont appelés soient donc fidèles jusqu'à la fin, et non seulement par la parole, mais aussi par la vie, et la conduite montre la voie de la vie. Car vous devez sentir en vous-même ce que vous servez aux autres, et vous devez montrer une vie conforme à ce que vous annoncez en parole, et par là vous serez manifestés à ce principe de Dieu qui est en tous les hommes, et le témoignage de Dieu répondra pour vous. Veillez à diviser correctement la parole de Dieu en toutes choses, ne criant pas paix aux méchants, ni ne refermant faussement la plaie, mais afin qu'un jugement véritable soit produit par vous en toutes choses pour tous les hommes, jugement pour les repus, et pain pour les affamés, ceux qui sont nus doivent être vêtus, et ceux qui sont faussement couverts doivent être mis à nu. Faites fructifier le don que Dieu vous a donné pour lui seul, et non pour vous-même. Ne vous empressez pas de prononcer des paroles devant le Seigneur, mais attendez la puissance d'en haut, afin que la voie de Dieu vers le salut soit fidèlement et véritablement présentée par vous à tous les hommes. Ne vous lassez pas, bien que vos fardeaux et vos épreuves soient nombreux, mais portez toute chose avec patience. N'aimez pas votre vie, même si la mort est menacée, afin que la bonne œuvre du Seigneur s'accomplisse, œuvre qu'il a commencée par nous, et qu'il a rendue prospère et puissante entre nos mains jusqu'à ce jour même. Notre cause est bonne. Nous recherchons la vérité et la justice, afin qu'elle soit établie sur la terre et que les hommes soient amenés à Dieu. C'est à cela que Dieu nous a appelés, et il nous a reconnus dans cette œuvre, et ne nous abandonnera jamais, car l'œuvre est à lui, et la puissance est à lui, et tout ce qu'il veut, il l'accomplit. Pourquoi donc douterions-nous ou nous lasserions-nous, car nous verrons le fruit du travail de nos âmes. Les dispersés seront rassemblés, et un reste de la semence sera amené, lui qui est dispersé dans chaque nation, comme des ossements desséchés, incapables de vivre. Comment cacherions-nous ce trésor que Dieu nous a donné à ceux qui périssent faute de l'avoir, ou comment resterions-nous satisfaits tant que les brebis dispersées ne sont pas ramenées au bercail? Nos cœurs sont troublés de voir tant de milliers marcher dans d'épaisses ténèbres, et de voir la semence d'Israël dévorée par le destructeur. Ainsi donc, mes frères, revêtons-nous de force, le Seigneur est avec nous, faisons la guerre dans la justice pour le Seigneur, contre toutes les puissances des ténèbres. Soyons continuellement armés pour faire et pour souffrir toutes choses pour le nom du Seigneur, afin que les hommes soient instruits dans la bonne voie. Nous savons que nul homme ne peut avoir pouvoir sur nous, sinon celui qui lui est donné d'en haut, et que tout ce qui nous arrive n'est pas digne d'être comparé à la couronne de gloire et à l'héritage dont nous avons déjà reçu les arts, et dont il nous a scellés par l'esprit de la promesse. Le nom du Père est écrit sur nous, soyez donc, en toutes choses auxquelles il vous a appelés, fidèles et obéissants, afin que son œuvre s'accomplisse. Vous tous, enfants et petits-enfants en Christ, qui êtes engendrés de Dieu, et qui avez soif et le cherchez dans la vérité et la justice, celui que vous cherchez vient régner parmi vous, et sa domination sera établie et étendue, et le désir de vos cœurs sera accompli. La justice et la vérité se rencontreront en un, et le jugement et la miséricorde seront exaltés. Attendez le Seigneur, et sentez continuellement sa puissance et sa présence, afin que vous croissiez comme des plantes de justice, et que vous participiez à l'héritage avec Christ, étant crucifiés au monde, devenant morts à toutes ses voies, et afin que ce ne soit plus vous qui viviez, mais Christ qui vive en vous. Par la lumière dont il vous a éclairé, il vous a donné entrée dans l'héritage du Père. À mesure que vous marchez dans la lumière, vous grandissez dans la communion avec le Père et avec le Fils. Demeurant dans le Fils, vous ne pouvez pécher, car il vous garde du malin, et celui-ci n'a aucun pouvoir sur vous qui demeurez en Christ, qui est la puissance de Dieu, et le salut de tous ceux qui croient, et la condamnation de ceux qui ne croient pas. Ainsi donc, vous tous qui êtes convaincus en tout lieu, écoutez la voix du Seigneur, afin que vos âmes vivent. Prenez garde à la puissance de Dieu et à son œuvre dans vos cœurs, qui vainquent l'enfer et la mort, et soumet toute leur puissance et leur voix. Que chacun obéisse au Seigneur, comme enfant d'un même Père, afin que vous receviez de sa plénitude et en soyez remplis. Réunissez-vous en tout lieu, et à mesure que le jour approche, exhortez-vous les uns les autres, afin que vous croissiez dans l'unité comme membres d'un même chef. Ayez toujours égard au témoignage de la vérité et marchez en lui, et vous ne trébucherez pas. N'ayez point égard aux personnes, mais à la vérité seule, car les personnes peuvent changer, mais la vérité demeure à jamais. Ainsi que l'œil mauvais ne regarde pas le mal, quand il arrive pour en tirer occasion contre la vérité, car alors vous trébuchez et tombez. Je le dis encore, n'ayez égard qu'au pur témoignage de la vérité, qui est certain et ne peut errer ni changer, bien que l'homme puisse changer et errer. C'est ce témoignage-là qui est présenté pour le salut, à savoir le témoignage de Dieu, chez qui il n'y a aucune ombre de variation. Ainsi donc, que tous prennent garde à eux-mêmes, afin de ne donner ni recevoir aucune offense contre le Seigneur et contre leurs propres âmes, mais connaissez la semence de Dieu en laquelle se tient l'élection, où l'alliance de Dieu est certaine et immuable. Il faut que vous connaissiez tous une naissance produite en vous, qui doit hériter, et c'est celle qui est née de l'Esprit et obtient la promesse. Ce n'est pas la naissance qui est de la chair, qui agit par le vouloir, la course et la pensée. Cette naissance n'obtient pas la promesse de Dieu, et le salut ne lui est pas manifesté. Mais c'est dans la patience et la longanimité que la victoire est reçue sur toutes les puissances des ténèbres qui font la guerre au royaume de Dieu. Ainsi, vous tous, amis, demeurez dans ce qui arrête et limite toute crêle dans l'esprit, et vous donne la victoire sur elle. Nul ne doit se glorifier dans la chair, car cette gloire doit être confondue, mais que celui qui se glorifie dans le Seigneur, dans l'esprit, et non dans la chair. Et prenez garde qu'aucun de vous n'abuse de votre liberté, qui est en Jésus-Christ, ni ne la transforme en servitude charnelle, de sorte que les justes viennent à souffrir et que la part charnelle en vienne à dominer au-dessus de la semence de Dieu, mais demeurez dans la croix qui réprime toute pensée élevée et tout ce qui est contre Dieu, dès le premier mouvement. Par là vous serez préservés de l'ennemi, qui guette le mal contre vous et cherche une occasion contre la voie du Seigneur. Veillez à ce qui vous garde pur, car ce sont les cœurs purs qui voient Dieu, et c'est celui qui a les mains nettes et un cœur pur qui hérite de la sainte montagne de Dieu. Concernant vos afflictions, souffrances, épreuves et persécutions, et tout ce qui vous est imposé par le Seigneur ou par les hommes, je dis, supportez toutes choses avec patience et endurez toutes choses avec longanimité. Ces choses ne durent qu'un moment et ne sont pas dignes d'être comparées au prix de l'héritage de Dieu. Et si vous demeurez dans le conseil du Seigneur, toutes ces choses tourneront à votre bien. Dans toutes les épreuves et souffrances, le bras du Seigneur se révélera, et ces choses doivent arriver afin que la vérité paraisse dans sa beauté, victorieuse de tout ce qui s'y oppose. La vengeance appartient au Seigneur, et il rendra, car il s'enquiert de notre sang, bien qu'aucun homme n'y prenne à cœur, ni ne considère la cause ni les souffrances injustes des innocents, devenus proies d'hommes impies et injustes, jusqu'à ce que Dieu se lève pour plaider notre cause. Les afflictions et les souffrances ne sont là que pour éprouver et mettre à l'épreuve. Elles ne sont pas là pour confondre ni détruire le peuple du Seigneur, c'est pourquoi elles doivent être portées avec patience, et la vie de Dieu doit être ressentie, celle qui donne la domination sur toutes ces choses. En recevant toutes choses comme venant de la main du Seigneur, alors, en toutes choses, votre paix demeurera, et le témoignage de Dieu attestera paix et acceptation auprès de Dieu. De toute injustice, de tout abus et de toute cruauté exercée contre vous par qui que ce soit, à tout moment tenez en registre, et rédigez en termes brefs et simples l'occasion et la manière dont cela s'est produit, et à chaque session trimestrielle, qu'une déclaration véridique de toutes les souffrances injustes soit présentée, avec prudence et simplicité de cœur, au juge de paix ou au grand jury, par ceux qui sont sages et fidèles. Dans de tels cas, en appelez au témoignage de Dieu en eux, afin que ce qui est de Dieu en tous les hommes témoigne pour nous. Que cela soit fait, selon ce qui sera discerné, à chaque session dans la sagesse et l'autorité de Dieu, afin qu'en toute chose la justice et le vrai jugement soient recherchés et attendus avec patience, jusqu'à ce que le Seigneur seul, notre roi, notre juge et notre législateur, vienne régner sur tous ses ennemis, alors tous ceux qui souffrent maintenant pour lui régneront avec lui. Un serviteur des Églises du Christ, Edward Burrough, poursuivant sa route dans le Somersetshire, il eut une réunion à Glastonbury, à la Market Cross. À celle-ci vint Samuel Winnie, le prêtre de la paroisse, accompagné d'une bande d'hommes ivres battant un tambour. Le prêtre s'adressa à Edward et lui demanda de quelle autorité il venait prêcher là. Il reçut une réponse prompte, formulée dans le langage de l'Écriture, « Comme chacun a reçu un don, qu'il le mette au service des autres, comme de bons dispensateurs de la grâce multiforme de Dieu. » Edward, renvoyant alors la question à celui qui l'avait posée, lui demanda de prouver par l'Écriture son appel au ministère. Cette question, Winnie n'eut pas plaisir à l'entendre et ne se sentit pas prêt à y répondre. Il se retira donc du champ de la contestation, laissant ses partisans ivres disputer pour lui. Ceux-ci le firent à leur manière, en frappant sur le tambour, en poussant des hurrahs à plein poumon, et en bousculant les amis de façon grossière et barbare. Quittant le Somersetshire, Edward retourna vers la partie orientale de l'Angleterre et ressentit bientôt une obligation religieuse de se rendre à Dunkerque, sur la côte française, ville alors aux mains des Anglais. Pendant de nombreux jours, dit-il, il lui sembla être son devoir de visiter et avertir les papistes, les jésuites, les moines et toute cette compagnie d'idolâtres, et de faire retentir parmi eux le jour puissant du Seigneur. Il alla à Douvres et, accompagné de Samuel Fiché, qui éprouvait un semblable souci religieux, il s'embarqua le 6 du troisième mois et atteignit Dunkerque le 7. À leur arrivée en ce lieu, où ils étaient tous deux étrangers, nous attendîmes dans la volonté du Seigneur, dit-il, afin d'être guidés par sa sagesse sur ce qu'il fallait faire et comment agir et parler pour sa gloire. Le lendemain, tandis qu'ils marchaient dans les rues, le maire vint à eux et exigea leur nom et l'objet qui les avait conduits là. À ces questions, les amis donnèrent des réponses sobres et un compte raisonnable. On sut bientôt dans toute la ville que deux Quakers étaient arrivés, et les habitants éprouvèrent beaucoup de curiosité quant à la raison de leur venue. Le lieutenant-gouverneur Alsop, avec son conseil d'officiers, les fit venir et s'entretint avec eux plusieurs heures. Les amis furent traités avec bienveillance, mais Alsop leur dit qu'il pensait que leur séjour en ce lieu comporterait un danger. Il craignait que des divisions et des querelles ne surgissent parmi les habitants et que la sécurité de la garnison anglaise ne fût mise en péril. Il pensait probablement que ce résultat s'ensuivrait si les principes et pratiques des moines et des jésuites étaient ouvertement et honnêtement attaqués par les amis dans cette ville catholique romaine dont les habitants étaient plongés dans une grossière superstition. Alsop leur demanda de quitter le lieu. En réponse, ils lui dirent franchement que, puisqu'ils estimaient avoir été conduits là divinement, ils ne pouvaient obéir à son ordre de partir avant de sentir celui qu'ils croyaient les y avoir envoyé les conduire au départ. Certains prédicateurs étaient présents à cet entretien, probablement des aumôniers militaires. L'un d'eux souhaitait engager une dispute publique avec les amis sur l'appel au ministère, mais le manque de temps et le manque de patience du provocateur empêchèrent que la question fût débattue, bien qu'Edward le désirât vivement. Le 11 du mois, les deux visiteurs adressèrent une lettre au lieutenant-gouverneur et à ses officiers, dans laquelle ils se nommant « voyageurs dans le labeur de l'Évangile de Jésus-Christ ». Ils disent être venus à Dunkerque pour être manifestés ouvertement aux yeux de tous les hommes dans nos doctrines, principes et pratiques qui sont du Seigneur et viennent du Seigneur et qui s'accordent pleinement en toutes choses avec les Écritures de vérité, publiées par l'Esprit de vérité, comme les saints hommes de Dieu y furent poussés. Ils ajoutent qu'ils sont venus là par amour pour les âmes du peuple, et principalement, autant que le Seigneur le leur a montré, pour s'entretenir avec les jésuites, les moines et les prêtres et leur découvrir les erreurs de leur voie et la fausseté de leur culte, et leur rendre témoignage dans la crainte et la puissance du Seigneur au sujet de leur Église, qu'elle n'est pas une véritable Église du Christ mais une fausse Église, née dans l'apostasie. Ils ajoutent encore qu'ils ne sont pas venus pour causer du chagrin ni du trouble à qui que ce soit, mais ajoutent, nous n'osons vous promettre, ni à vous ni à nous-mêmes, ce que nous ferons ou ce que nous ne ferons pas, ceci seulement nous disons, si l'on peut nous imputer la transgression d'une loi juste, nous ne refusons pas de souffrir ce qui sera imposé, et nous croyons que le Seigneur nous aidera ainsi, nous ordonnera par son esprit de vérité, et nous conduira dans la douceur et la justice envers vous, pendant que nous demeurons parmi vous. Si une offense est prise par les irréfléchis, sans juste motif donné, la honte et la condamnation retomberont sur ceux qui prennent l'offense. Nous attribuons au Seigneur, et non aux hommes, l'exercice de nos consciences, afin d'être obéissants aux enseignements de son esprit en toutes choses. S'il commande de faire, ou de ne pas faire, quoi que ce soit, et que vous commandiez le contraire, nous devons lui obéir, même en vous désobéissant, car il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Quand il nous dit de parler, en quelque lieu ou en quelque temps que ce soit, nous ne pouvons garder le silence, car notre soin et notre étude sont de garder nos consciences pures devant Dieu en toutes choses, par l'obéissance à lui. Nous ne pouvons faire pour nous-mêmes aucune autre promesse que de faire et de parler parmi vous comme le Seigneur notre Dieu nous y poussera et nous y conduira. Et ce témoignage, nous le rendons pour le Seigneur. Il ne nous pousse ni ne nous conduit à faire quoi que ce soit, sinon ce qui est juste, bon et saint, ce qui peut tendre au bonheur et à la paix, et au bien de vos âmes et aussi de vos corps. En conclusion, les amis offrirent de tenir une dispute publique sur le véritable appel au ministère, avec le prêtre qui leur avait parlé sur ce sujet la veille au soir. Le même jour, ils allèrent au couvent des Capucins et, dans le jardin dépendant de l'établissement, eurent un entretien avec le principal d'entre eux. Le premier sujet abordé fut la lumière du Christ, par laquelle tous les hommes venant au monde sont éclairés. Après cela, Edward et son compagnon lui parlèrent du jour puissant du Seigneur, où tout serait sondé et éprouvé, et où toutes les voies et tous les cultes idolâtres du papisme seraient détruits. Le lendemain, le 12, Edward adressa quelques questions aux Capucins. Il souhaite qu'ils lui disent, s'il y avait, dans l'Église primitive, un tel ordre d'hommes et de femmes que vous êtes, si vous pouvez trouver, de la part de Jésus-Christ, autorité pour vos cultes, votre oisiveté et vos pratiques, votre inutilité pour Dieu et pour les hommes, si vous êtes disposé à voir votre religion éprouvée par les Écritures. Et si vous ne l'êtes pas, si quelqu'un est tenu de vous suivre, si le monde dans vos cœurs et la nature du monde, à savoir la racine de la convoitise, la racine de l'orgueil, l'avarice et l'amour de ce monde et de ses vanités, et la racine de l'idolâtrie sont soumis en vous, je m'adresse à la lumière de vos consciences. Quelle est la racine de toutes ces choses et qu'est-ce qui la soumet? Est-ce une abstinence extérieure, par la force des serrures, des portes et des verrous, ou des lieux secrets et séparés de soi-même, qui soumet la nature du monde chez les hommes et les femmes? Est-ce par de tels moyens que Christ donne la victoire sur le péché et le vainque dans son peuple, ou n'est-ce pas uniquement par la puissance de Dieu dans le cœur? Il ne me semble pas que vous ayez renoncé au monde comme les apôtres l'ont fait, ou avaient-ils de tels sièges, aux endroits les plus beaux et les plus gras des cités et des bourgs, comme vous en avez. De si grandes et belles maisons, des jardins, et de tels revenus annuels que vous avez, demeurant tous vos jours dans une grande maison, et passant votre temps dans la paresse et l'oisiveté comme vous le faites. Il parcourait le monde en prêchant l'Évangile, n'avait point de demeure fixe, mais suivait l'agneau de Dieu en esprit, et ne s'établissait pas dans les lieux gras de la terre, demeurant tous leurs jours comme vous le faites. C'est pourquoi nous jugeons que vous êtes hors de la vie, et non dans l'esprit où étaient les apôtres, mais dans une forme de justice et de sainteté sans la puissance. Ils désirent en outre savoir de s'ils sont venus à Jésus-Christ en eux-mêmes, s'ils s'attendent à être libres du péché dans cette vie. S'ils croient que les hommes peuvent être restaurés par le second Adam dans le même état qui fut perdu par le premier Adam. En conclusion, il dit, « Si vous êtes dans la vérité parfaite et voulez convertir d'autres à votre religion, soyez francs avec nous et employez vos meilleures armes spirituelles dans votre zèle envers nous, et défendez votre cause, et prenez parti pour votre Dieu. Si vous doutez de vos voies et de vos pratiques, et n'êtes pas capable de défendre votre religion, alors que vos bouches soient fermées et détournez-vous de l'idolâtrie. » Pendant leur séjour à Dunkerque, ils eurent divers entretiens avec les Capucins, les Récollets et les Jésuites. Ils allèrent visiter les religieuses, mais celles-ci, après avoir entendu quelques mots, les interrompirent pour demander s'ils étaient de l'ordre de ce qu'on appelle Quakers. Ayant reçu une réponse affirmative, les religieuses se retirèrent, disant qu'elles ne devaient pas les écouter. Les Capucins étaient légers et railleurs, et se lassant bientôt des amis et des vérités qu'ils publiaient, ils refusèrent de leur donner l'occasion de s'entretenir avec eux. Le recteur des Jésuites ne voulut les rencontrer qu'après le retour à Dunkerque de Lockhart, le gouverneur, qui était absent lors de l'arrivée des amis. Lockhart parla au recteur, qui consentit alors à voir Edward et Samuel. Il était subtil et rusé, et d'abord fort hautain d'esprit, méprisant apparemment ses adversaires. Mais la vérité dans leur bouche était trop forte pour qu'il pût la combattre avec succès, et après un entretien de 3 heures, il prétendit avoir d'autres affaires à traiter et, se dérobant, refusa ensuite toute conversation avec eux. Le 20, Edward adressa aux jésuites, aux prêtres et aux moines un écrit contenant des affirmations de cet ordre. 1er, que l'Église romaine n'était pas la véritable Église du Christ. 2e, que la constitution de l'Église, et la principale part des formes de son culte et de ses ordonnances, était d'origine humaine. 3e. Qu'il y avait eu, dans le monde, un déclin général hors de la vraie foi et de la vraie doctrine. 4e. Que l'Antéchrist avait régné pendant des générations. 5e. Que la véritable Église était encore dans le désert. 6e. Que contraindre des personnes, par une loi extérieure, à se conformer à certaines religions, et les persécuter et les tuer pour des questions de conscience, était un culte rendu à la bête. 7e. Que nul n'est membre de la véritable Église, si ce n'est celui qui est changé et renouvelé par la puissance du Seigneur Dieu dans le cœur, et unis au Christ la tête. 8. Que le temps vient où Babylone sera renversée. Edward et son compagnon tinrent de nombreuses réunions en ville et rendirent beaucoup de services dans l'armée anglaise, avec très peu de troubles. Edward dit, « Je dois louer l'esprit de nos Anglais pour leur modération, plus que celui des hommes de toute autre nation. Je déchargeais bien des fois ma conscience au milieu d'eux, comme ils étaient hommes, fils d'Adam, et en rapport avec l'état éternel, je les dirigeais vers la voie du bonheur, hors du péché et de la méchanceté. Afin que, comme ils étaient fils d'Adam dans la transgression, ils puissent venir à être guéris, venir à Christ, la puissance et la sagesse de Dieu, et être sauvés. Ayant appris que l'un des aumôniers avait parlé contre eux en leur absence, ils lui proposèrent de s'entretenir avec lui. Il éluda la proposition, mais dit à ce que, s'ils exposaient par écrit certains de leurs principes, il leur répondrait en dispute dans un lieu public. Conformément à sa demande, ils préparèrent les brèves propositions suivantes. 1er. Que Christ a éclairé tous les hommes d'une lumière suffisante pour les conduire au salut s'ils la suivent. 2. Que Dieu a donné Christ pour être le sauveur de tous les hommes. 3. Que nul n'est justifié par Christ et sa justice en dehors de lui, sinon dans la mesure où il a reçu Christ et sa justice, et en a été témoin comme révélés en lui-même. 4. Que les saints de Dieu peuvent être parfaitement libres du péché dans cette vie, au point de ne plus le commettre. 5. Que les ministres et les églises nationales, non seulement des papistes, mais aussi des protestants, telles qu'elles se tiennent maintenant, ne sont pas de véritables ministres et églises du Christ. 6. Que les Écritures sont une déclaration vraie, émise par l'Esprit de Dieu, par des hommes saints de Dieu, poussés par lui à les écrire, et qu'elles sont utiles, mais qu'elles ne sont pas le fondement, ni la règle la plus parfaite de la foi et de la vie pour les saints. Nous sommes disposés et désireux d'en discuter avec lui et avec tout autre en un lieu public, pourvu que ce soit dans un esprit de douceur et de modération, et qu'il y ait entre nous des procédés équitables et sobres, et la crainte de Dieu. L'aumônier, à ce qu'il semble, ne souhaitait pas s'engager dans une controverse avec eux et s'efforça de rejeter sur d'autres la responsabilité de ce refus, disant « Le gouverneur n'y consent pas ». Peu après le vin, ils s'embarquèrent pour l'Angleterre, ayant accompli à Dunkerque tout le service que leur maître divin avait mis sur eux. Avant la fin du mois, ils eurent une réunion à Sandwich, dans le Kent, dans la maison du presbytère, où ils rencontrèrent George Fox et Ambrose Rigg, qui tenaient alors des réunions dans ce comté. Edward et son compagnon en tinrent aussi une à Douvres, dans une grande maison située sur la place du marché, appartenant à Miltemple, capitaine de la milice de la ville. Ce fut une bonne réunion, mais une fois terminée, la populace mit le feu à la maison où elle s'était tenue, dans l'intention de nuire aux étrangers. Le seigneur les préserva, mais le bâtiment fut consumé. Les deux amis tinrent ensuite une dispute publique au Steeple-House avec William Russell, l'un des prêtres. La dispute fut principalement conduite par Edward Burroughs, et elle fut satisfaisante pour les amis de la vérité, qui avaient raison de croire qu'elle fut le moyen de convaincre certains des présents. De là, Edward Burroughs se dirigea vers Londres, où il entra avec George Fox le 16 du quatrième mois. Un prêtre du Sussex ayant envoyé à un membre du Parlement un manuscrit contenant un certain nombre d'accusations injurieuses contre la Société des Amis, dans le dessein de discréditer secrètement leur cause, et ce document étant parvenu à la connaissance d'Edward Burroughs, il écrivit une réponse intitulée « Le dessein de Satan déjoué » qui figure dans ses œuvres. Richard Cromwell, conformément aux souhaits des officiers de l'armée et contre son propre jugement, avait dissous le Parlement le 22 du deuxième mois, et l'horizon politique de l'Angleterre commença à donner des signes évidents de changement. Il sentait sa puissance diminuer et n'avait pas l'intention de la rétablir par le sang. Edward Burroughs avait écrit une adresse au Parlement ainsi dissous, les exhortant à ne pas permettre que l'exercice des consciences pures soit foulé aux pieds, à se souvenir de la cause de Dieu et de son peuple, à se souvenir des gémissements des pauvres et à prêter l'oreille aux cris des opprimés, à soulager les souffrances sans faute, à briser les liens de l'iniquité et à laisser aller libres les opprimés. Faites cela de peur de périr. Au cinquième mois, Edward Burroughs remit, ou fit remettre, l'adresse suivante à Richard Cromwell et à son frère Henry, qui sentaient alors que leur pouvoir et leur influence les avaient quittés. À Richard Cromwell et Henry Cromwell amis, encore une fois, le Seigneur m'a donné quelque chose à vous dire, dans l'amour de vos âmes immortelles. Vous avez eu un jour glorieux de visitation, et beaucoup d'avertissements précieux sortis de la bouche du Seigneur, par ses serviteurs, mais vous avez rejeté le conseil du Seigneur contre vos propres âmes, et vous n'avez fait aucun cas des serviteurs du Seigneur qui vous furent envoyés, au contraire, vous les avez fait persécuter, et vous l'avez permis par votre pouvoir, et ils furent dépouillés et livrés en proie à leurs ennemis tout le temps de votre domination. Vous vous êtes cherché vous-même et votre propre honneur, vous vous êtes élevé dans l'orgueil et la vaine gloire, et vous avez oublié Dieu, qui vous avait relevé d'un état bas, vous n'avez eu aucun égard pour la cause de son peuple. C'est pourquoi ceci vous est justement advenu de la main du Seigneur. Non que je m'en réjouisse ou que je me glorifie sur vous à cause de cela, je ne fais que vous dire ce qui vous est justement arrivé, afin que vous appreniez les justes jugements du Seigneur en ces choses, comme jadis je vous en avais averti. Il ne pouvait en être autrement que le Seigneur ne vengeât la cause de son peuple sur ses persécuteurs, et l'injustice faite à son peuple, sur vous, au nom et par le pouvoir desquels elle fut commise. En chaque génération, il a eu égard à la cause de son peuple et l'a vengée en son temps. Je m'en souviens bien, autrefois, je fus poussé à parler au nom du Seigneur à votre Père, disant que ces choses qui arrivèrent de son vivant, la cruauté et l'oppression exercées contre le peuple du Seigneur, seraient compensées et feraient l'objet d'un repentir au temps de ses enfants. Je vis que la cruauté et l'injustice commises en son nom contre le peuple de Dieu ne pouvaient, en une génération, demeurer impunies. Cela est maintenant arrivé dans une certaine mesure, et arrivera davantage encore, à cause de ses transgressions et des vôtres. Vous avez tous eu un jour et un temps où vous auriez pu faire quelque chose pour le Seigneur et pour son peuple. Un prix avait été mis entre vos mains, que vous auriez pu faire fructifier pour la gloire du Seigneur et pour votre propre renom, afin d'être une bénédiction pour vous-même et pour le peuple de Dieu dans ces nations. Mais votre jour est passé et la nuit est venue dessus. Votre prix vous a été ôté et donné à d'autres, et vous ne pouvez plus maintenant œuvrer ni agir pour le Seigneur, comme autrefois vous auriez pu le faire. Vous avez recherché l'honneur pour vous-même, et vous avez moissonné l'opprobre. Parce que vous avez méprisé le conseil du Seigneur, le piège vous a pris, piège qui était tendu pour d'autres. Je dis ces choses par pitié pour vous, plutôt que pour me vanter contre vous. Je ne loue pas non plus cet esprit qui agite envers vous avec trop de sévérité, qui vous reproche plus qu'il ne cherche à vous corriger. Ce n'est pas ma manière. Quant à vous, venez à la crainte du Seigneur Dieu, afin que vos iniquités soient pardonnées, cherchez la paix avec Dieu et la réconciliation, recherchez le royaume qui demeure à jamais. Tant que vous en avez le temps, recherchez une couronne immortelle et attendez de connaître ce qui vous fera héritier de cet héritage qui ne se flétrit jamais. La lumière dans vos consciences, dont Christ vous a éclairé, celle qui vous fait voir le péché et vous convainc de vos mauvaises actions, cette lumière, vous devez la reconnaître comme votre maître. Vous devez vous y soumettre en toutes choses, sinon vous n'avez aucune part au royaume de Dieu. À peu près à cette époque, les amis de Sabridgeworth, dans le Hertfordshire, subissaient de nombreuses insultes et mauvais traitements de la part d'une populace grossière, encouragée dans ses méfaits par Thomas Hewitt, magistrat connu pour être partisan du roi Charles. Les assemblées des amis pour le culte religieux, en ce lieu, étaient très souvent troublées. On lançait des briques sur les personnes réunies, au péril de leur vie et de leurs membres, et on leur jetait fréquemment des immondices. La maison de réunion fut presque détruite par la foule, et lorsque l'on fit rapport de cet outrage au dit Hewitt, il ordonna à son domestique de mettre le plaignant à la porte. Une fois, il vint comme capitaine d'une compagnie de perturbateurs volontaires, résolu à empêcher les amis d'entrer dans leur maison de réunion. Et ce ne fut qu'après une vive échauffourée, avec quelques soldats du Commonwealth, que lui et sa bande se retirèrent. Les Tories estimaient alors que les signes des temps étaient favorables au retour du roi Charles Yi, et ils commencèrent à parler et à agir hardiment en maints endroits. Vers la fin du sixième mois, Edward Burrough se trouvait dans le Hertfordshire, assistant à la réunion de Sabridgeworth. En s'y rendant, il fut copieusement couvert de boue que la foule lui jeta, et voyant Hewitt passer alors dans son carrosse, il alla le trouver et se plaignit à lui, en tant que magistrat, des mauvais traitements infligés à des gens paisibles dans sa juridiction. Tandis qu'il exposait l'affaire au gentilhomme, l'un des émeutiers s'approcha et lui arracha son chapeau d'un geste brusque, et un autre lança un œuf pourri sur sa tête nue. Cela plut tant à Hewitt qu'il ne put s'empêcher de sourire, bien que son carrosse reçût aussi une partie de ce contenu nauséabond. L'un des premiers amis, après avoir relaté les divers actes d'outrage commis contre les amis avec la caution et l'approbation de ce magistrat, fit cette remarque « Celui qui dédaigne d'être le serviteur du Christ s'abaissera à une fonction pire encore. » Du Hertfordshire, Edward retourna à Londres. Là, de nouveau, il fut accaparé par bien des occupations, travaillant au bien de la société religieuse dont il était membre, et de chacun de ses membres, selon les occasions qu'il trouvait, prêchant l'Évangile comme son maître lui donnait la parole et défendant, par sa plume, les doctrines de la vérité. Le pouvoir du protecteur, Richard Cromwell, déclinant déjà, les officiers de l'armée le persuadèrent de dissoudre ce parlement, qui commençait à rechercher comment les subsides étaient employés. Et sur l'avis de quelques-uns des principaux républicains, le long parlement fut rappelé. Ce parlement institua un comité de sûreté chargé d'appréhender ce qui troublait la paix et d'opérer un changement parmi les officiers militaires, soit en les révoquant, soit autrement, et gagnant en puissance, il établit aussi un conseil d'État. On envoya ordre à Richard Cromwell, désormais dépouillé de tout pouvoir, de quitter Whitehall, ce qu'il fit finalement, le parlement lui accordant 2000 livres pour les frais de déménagement, promettant de payer ses dettes contractées pour le public, et son frère Henry, qui était lord. Ainsi, ses deux frères furent de nouveau réduits à l'état de simples particuliers. Le 12 du septième mois, Edward Burrough s'adressa au Parlement alors assemblé, le long Parlement étant de nouveau au pouvoir dans une communication marquée par une grande franchise. Elle commence ainsi, « Au Parlement du Commonwealth d'Angleterre, l'autorité présente de ces nations assemblées à Westminster. » Présentation, par un ami fidèle de la nation, au nom et par l'Esprit de Jésus-Christ, roi de justice et de paix. Afin que vous ôtiez l'oppression et que vous délivriez le peuple de tous ces liens cruels, imposés à ses corps, à ses biens et à ses consciences, au jour du règne de l'Antéchrist. Afin que la vérité, la justice et la droiture s'approchent de nous, et que le royaume du Fils de Dieu soit établi parmi nous. Afin que vous et nous soyons enfin de libres sujets du royaume du Christ, où justice, vérité et paix puissent couler à flot et être établis pour toujours. Il reconnaît que, pendant le long temps où le Parlement avait exercé le pouvoir en Angleterre, beaucoup de lois cruelles avaient été annulées, et que le royaume de l'Antéchrist avait reçu plus d'une blessure. Il y a eu, à plusieurs reprises, les belles fleurs de la glorieuse apparition de la vérité, de la justice et de la paix. Beaucoup d'entre vous ont fait de belles promesses et de beaux semblants, comme si le royaume de Jésus était à notre porte, prêt à entrer dans notre nation. Par quoi nous avons nourri bien des espérances d'être, avant ce jour, rendus parfaitement libres des chaînes de l'Antéchrist et de la fausse Église, et de toutes ses ramifications. Mais hélas, l'œuvre glorieuse de la Réforme a été interrompue sous nos yeux, et les précieux bourgeons, la belle apparence de fruits glorieux, se sont flétris et ont été anéantis à notre vue. Nos bonnes espérances ont péri, notre liberté a été interceptée par les méfaits d'hommes infidèles. Le royaume de l'Antéchrist n'a pas été déraciné, ni les lois oppressives de la fausse Église entièrement abattue. La cause en a été certains hommes infidèles, qui ont négligé la bonne œuvre du Seigneur autrefois confiée entre leurs mains, qui se sont cherchés eux-mêmes, leur propre honneur et leurs intérêts, qui se sont installés dans l'aisance et le repos charnel, se glorifiant du butin de leurs ennemis, et sont ainsi devenus infidèles et inutiles pour poursuivre l'œuvre du Seigneur. Certains ont eu, un temps, des dispositions sincères et ont bien avancé vers l'acquisition d'un royaume de justice et l'abolition de toutes les oppressions. Pourtant, lorsqu'ils ont commencé à se chercher en ce monde, à s'approprier les honneurs, les titres et les possessions de leurs ennemis, et qu'ils se sont ainsi rendus coupables des péchés de leurs ennemis, l'œuvre du Seigneur n'a pu prospérer par eux. Il poursuit ensuite en signalant le joug des dîmes et l'entretien forcé des ministres comme quelques-unes des oppressions de l'Antéchrist qui n'avaient pas encore été abolies. À peu près à cette époque, il y eut dans le Cheshire une insurrection pour le roi Charles, sous ce George Booth. Celui-ci, ayant reçu une commission de ce prince, rassembla tant de partisans qu'il s'empara de la ville de Chester. Pendant ce temps, le Parlement envoya Edmund Ludlow en Irlande, comme commandant en chef de l'armée, à la place de Henry Cromwell, et le général Lambert fut dépêché avec une armée contre Booth. Or, comme certains gens téméraires, qui se donnaient le nom de Quakers, voulaient prendre les armes sous Lambert, et que le comité de sûreté offrait de grands postes et commandements à quelques personnes de cette persuasion, afin de les détourner de la vérité qu'elles professaient. G. Fox écrivit un texte où il montrait l'illégitimité des guerres et des combats, les présentant comme une œuvre ne convenant en rien aux disciples du Christ, et il exhorta ses amis à ne pas se joindre à ceux qui prenaient les armes, mais à combattre seulement avec des armes spirituelles, qui ôtaient l'occasion de la chair. Il le recommanda aussi dans sa prédication, car une vie inoffensive et sans violence était ce qu'il affirmait et pratiquait toujours. Quant à Booth, il fut défait, et cherchant à s'échapper déguisé en femme, il fut découvert dans une auberge et mis en état d'arrestation, et conduit à Londres sur ordre du Parlement, il fut enfermé à la tour. Les officiers de l'armée, dont George Fleetwood était alors commandant en chef, s'employaient activement à prendre le dessus sur le Parlement, ce qui causait de grandes divisions et de grands troubles dans la nation, car il était bien connu que si le pouvoir suprême était remis à l'armée, elle pourrait faire ce qu'elle voudrait, et ainsi la nation serait gouvernée par l'épée. On se rappelait aussi clairement que c'était l'armée qui avait élevé Cromwell jusqu'à le faire protecteur et souverain de la nation, et c'est pourquoi beaucoup s'opposèrent au projet en cours. À cette époque également, les officiers militaires proposèrent d'ôter le fardeau des dîmes et d'établir un autre entretien pour les prédicateurs nationaux. Mais ne voulant pas que le Parlement fût maître de l'armée, ils se plaignirent d'avoir été trompés par le Parlement, et le colonel Disbury déclara qu'il n'avait exécuté aucune des promesses faites à l'armée, qu'il n'avait pris aucune mesure pour garantir une liberté aux consciences scrupuleuses, et que leur intention était d'écarter les principaux officiers et de placer à leur poste d'autres hommes de principes différents. Or, le conseil des officiers voulait convoquer un nouveau Parlement, mais cela rencontra une opposition considérable. Dans cette agitation, le conseil des officiers commença à faire des avances au clergé, et ils s'accordèrent avec lui pour que leur entretien par les dîmes ne fût pas supprimé tant qu'on ne leur aurait pas assuré un autre revenu aussi ample et certain, qu'il faudrait prendre certaines dispositions pour ce qui différait, en foi et en culte, de l'Église établie, mais que les Quakes et quelques autres dont les principes, disait-il, tendaient à la destruction de la société civile, ne devaient être aucunement tolérés. Dans cet état de choses si troublé, où les uns étaient pour et les autres contre le Parlement, au point qu'on savait à peine où résidait l'autorité suprême, Edward Burrough écrivit et publia un long discours. Il indiqua, en guise d'introduction, que son contenu l'avait pressé de le prononcer de vive voix devant les hommes alors au pouvoir, mais qu'aucune voie ne s'étant ouverte pour le faire, il avait mis par écrit ce qui lui pesait. Et il commence alors ainsi, sur un ton majestueux, un message aux gouvernants actuels de l'Angleterre, qu'il s'agisse du comité de sûreté, ainsi nommé, du conseil des officiers ou de tout autre. « Ami, mon maître est un prince élevé, puissant et redoutable, très honorable, et c'est à lui seul qu'appartiennent, de votre part et de celle de tout le genre humain, la crainte, la révérence, le respect et la soumission. Il est sage et intelligent, d'une grande force, et sa domination est d'éternité en éternité, et il peut faire tout ce qu'il veut aux cieux et sur la terre, car il gouverne le monde avec sa verge de fer, et quoi qu'il dise, cela s'accomplit, car sa parole est un commandement éternel. S'il dit à un homme « Vie », il en est ainsi, s'il dit à un homme « Meurs », cela arrive, et s'il donne la paix à un homme ou à une nation, nul ne peut faire la guerre, et s'il fait la guerre à une personne ou dans une nation, aucun homme n'est capable de faire la paix. Pourquoi ? Parce qu'il a tout pouvoir en sa main, et que tout jugement et toute autorité lui sont donnés, il est le Fils du Dieu vivant, le Créateur éternel. Il vient, son œil voit toutes choses, et son bras embrasse le ciel et la terre, et ce qu'il a résolu, il l'a toujours accompli et l'accomplira toujours. S'il établit des gouvernants, ils doivent gouverner, et s'il les renverse, nul ne peut l'en empêcher. Il honore qui il veut, et s'il lui plaît, il couvre les hommes de honte. S'il abat une nation, nul ne peut la relever, et s'il confond les puissances et les autorités dans les royaumes des hommes, elles tombent toutes devant lui comme de l'herbe flétrie. Regardez, vous les hommes. Il est grand et puissant, d'une autorité si grande que tout ce qu'il veut s'accomplit, et tout ce qu'il veut arrive, et nul n'est capable de lui résister et de triompher de sa puissance, lorsque telle est sa volonté d'accomplir une œuvre. Par lui existent toutes choses qui sont, et vivent toutes choses qui ont la vie, par lui toutes choses se meuvent, et de sa plénitude, toute créature au ciel et sur la terre reçoit. Et ce maître le mien, étant tout honorable de naissance et autrement, et tout-puissant en toutes ses œuvres, il est juste et miséricordieux, plein de bonté, de justice et de vérité, toute vertu demeure en lui, et son jugement et sa miséricorde, son autorité et sa douceur, sa colère et son amour, son compagnon. Et que êtes-vous devant lui? Ou comment pourrez-vous lui résister, ou faire reculer ce qu'il a résolu vous concernant, vous et cette nation, car vous n'avez ni être ni souffle sans lui? Regardez, vous les hommes. Vous êtes véritablement comme la poussière devant le vent. Ainsi êtes-vous pour lui bientôt emporté, et l'on ne trouve plus votre place. Comme l'herbe devant le faucheur, ainsi êtes-vous devant lui bientôt coupé et flétri, et votre beauté entièrement éteinte. Comme un vase de potier sous une verge de fer, ainsi êtes-vous pour lui. Il peut aussitôt vous briser sans jamais vous réassembler. Comme une goutte auprès de la source, ainsi êtes-vous pour lui bientôt tari et réduit à rien. C'est pourquoi, vous les hommes, vous créatures mortelles, vous personnes ignorantes, fils d'un transgresseur, vous poussière et cendre, car telle est votre condition au regard de ce prince puissant, écoutez son message, qui vous vient de lui, entendez et craignez, et ne vous endurcissez pas contre le Seigneur Dieu, qui s'apprête à vous parler. Quant à cette petite île d'Angleterre, où se trouve votre position et votre existence présente, c'est une île à laquelle le Seigneur a montré une grande faveur dans les siècles passés, et en ce temps présent. Et je dois vous dire qu'il a envers elle un dessein d'amour, et qu'il veut l'honorer aux yeux du monde, quoique par de grandes tribulations. Et il a pour elle une intention de grand bien, car il y a en elle une semence précieuse dispersée au loin, et il y a un peuple qui craint son nom et a marché dans ses voies, il les a fait. Oui, en vérité, il a un dessein proche au sujet de cette nation, il la purifiera par le jugement et affinera ses habitants par le feu des tribulations, afin qu'elle lui soit agréable et propre à faire sa volonté. Il a le dessein d'y accomplir quelques grandes choses, je dois vous le dire, comme il m'a dit de le faire. Il aura son nom exalté et révéré dans cette île, et sa terreur en sortira vers le monde, et son rameau, issu d'elle, s'étendra sur la terre. Il a le dessein en son temps de la prendre en sa propre main, d'en diriger le gouvernement avec son propre sceptre, d'y établir seule la justice, d'y renverser tous les oppresseurs et toutes les oppressions. Et les royaumes de ce monde doivent devenir les royaumes du Seigneur et de son Christ. Rêve 11-15. Commentaire de l'éditeur du site. Les royaumes de ce monde doivent devenir les royaumes du Seigneur et de son Christ. Rêve 11-15. Le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent la mer. Isaïe 61, 11-11, 9-2-3, 13. Le temps approche à grands pas, et la diffusion de la terreur du Seigneur, qui précédera la diffusion de la justice, viendra d'un rameau des Quakers qui parcourra toute la terre. D'après la parole du Seigneur au-dedans, en 2008, l'Apocalypse annonce l'avenir. Je vais raréfier la population de la terre, des familles entières mourront. Ceux qui n'ont pas de lumière, je les détruirai. Je mettrai ma loi dans le cœur de chaque homme. Je trahirai ceux qui sont heureux dans leur péché. Je remplirai toute la terre de mort. Tous ceux qui détruisent seront imaginés être mes autorités. Quiconque agit méchamment et injustement sera puni. Il est clair que certains seront grandement favorisés. Je rendrai les hommes plus précieux que des rubis. Votre méchanceté gît dans la honte. Chaque homme était son propre roi. Je ferai de l'obéissance le fruit de la justice. Le Seigneur établira la justice sur toute la terre. Cela s'accomplira. Les enfants ont perdu l'héritage de Dieu. Je dévorerai ceux qui ne suivent pas, et j'arracherai le juste au feu. Ô vous puissants, cherchez le Seigneur tant que vous avez encore de la force. Stephen Crisp prophétise le même événement, comme le fait Isaac Pennington, comme le fait Ambrose Rigg. Il est vrai que de tout temps, depuis de nombreux siècles, selon le cours du temps et des événements, mon maître a été pour ainsi dire banni de la nation et n'a pas été autorisé à jouir de son droit. Mais il a été chassé même comme par la force de Satan et de l'Antéchrist, qui ont longtemps usurpé l'autorité sur les habitants de cette nation. Et en l'absence de mon maître, une lamentable injustice, une cruauté impitoyable, une tyrannie et une oppression se sont exercées sur les habitants. Les pauvres créatures ont été tenues dans une grande servitude par leurs gouvernants, qui ont régné par la puissance du dragon. Ils ont été maintenus, toutes ces années, dans une grande cécité et ignorance et sous une grande oppression, tant du corps que de l'esprit, par des docteurs antichristiques. Pendant tout ce temps, le grand roi était absent et pour ainsi dire parti dans un pays lointain. Pendant tout ce temps, l'Antéchrist et le diable ont gouverné et régné, et ont établi et exécuté des lois et des décrets oppressifs et tyranniques, tant dans l'Église que dans l'État. Toute la nation a été hors du bon ordre, dévastée et stérile en bons fruits, et elle a été comme un désert à cause de cela. De mauvais hommes, qui ont gouverné durant de nombreuses années, n'ont pas gouverné uniquement par l'autorité de mon maître, mais par une autre puissance, non sans la connaissance de mon Seigneur, ni comme s'il n'avait pas eu le pouvoir d'agir autrement, mais pour son bon plaisir, il l'a permis ainsi, et a laissé les hommes gouverner et administrer selon leur propre volonté et leur propre convoitise, et les gens ont marché dans la méchanceté envers lui et les uns envers les autres. Tout cela, il l'a permis, non pas comme s'il l'approuvait, puisque ses messagers de temps à autre, et son témoin dans les consciences, reprenaient leurs voies impies, et il a souvent montré son déplaisir par de multiples voies et signes, par bien des jugements et d'étranges renversements, à l'égard de la conduite et des procédés des gouvernants, des prophètes et des docteurs de cette nation. Pourtant, ils ont poursuivi contre son intention et contrairement à sa volonté, malgré ses reproches et ses jugements. Non pas qu'il n'eût pas le pouvoir d'exécuter sur eux, dans sa colère, ce qu'il voulait, et de les détruire entièrement, et de réduire la nation à un monceau à rien bien avant ce jour, car il avait le pouvoir de le faire, mais il a été longanime et d'une grande patience, il a tout supporté, prenant sur lui l'injustice, la cruauté, la méchanceté, l'idolâtrie et toute l'iniquité qui a abondé dans la nation, souffrant sous cela et le portant pour un temps, tandis que de misérables et lamentables oppressions étaient pratiquées dans l'état civil. Des tyrans sans merci ont porté le sceptre et régné pendant de nombreuses années sur les habitants, et dans l'Église et dans l'État, de graves idolâtries et de vaines superstitions ont été commises à un degré et dans une mesure élevée. Tous les hommes, et les conditions des hommes, et les ordres de personnes de tout rang ont été abominablement corrompus aux yeux de mon Seigneur, du prince aux mendiants, gouvernants et sujets, docteurs et peuples, juges et prophètes. Ils ont été corrompus de cœur et d'actes, et ils ont agi faussement et méchamment envers lui et les uns envers les autres, au grand déplaisir et à la grande affliction de lui et de son esprit béni, et à une provocation élevée de sa part qui eût conduit à leur propre destruction, si sa longanimité n'avait prévalu. Pendant tout ce temps, il a été, pour ainsi dire, comme endormi et au repos en lui-même, et il a laissé les hommes à l'épreuve pour voir ce qu'ils feraient, et il leur a accordé un jour. Beaucoup de rois et de gouvernants, il leur a laissé un peu de temps pour voir comment ils s'en serviraient, mais ils en ont abusé et n'ont pas gouverné pour lui, ni accompli son œuvre ni réalisé sa volonté, mais ont agi jusque dans le défi à son égard et à l'égard de sa puissance, à son grand déshonneur. Hélas, je dois vous parler avec franchise. Mon Seigneur a été totalement exilé, grandement déshonoré, fortement provoqué et affligé par de telles pratiques qui ont eu cours dans cette nation pendant ces nombreuses années, par la corruption de toutes sortes d'hommes en position et en pouvoir, qui n'ont pas gouverné pour lui, mais pour le diable, en vue de leur fin corrompue. Il n'a fait que permettre aux hommes de poursuivre leur course pour un temps, certains, comme apparaissant sur la scène pour un moment, puis soudain renversés à cause de leurs iniquités. Et sa main a été en toutes ces choses, quoique très discrètement et secrètement, non connue ni discernée par les fils des hommes. Pourtant, il a régné sur les royaumes des hommes, en a abattu un et en a établi un autre. Et pour supporter les diverses actions et démarches des siècles passés, et en venir à cette génération, et parler des choses survenues ces dernières années et des changements et renversements arrivés dans cette nation, telle était la cruauté, la tyrannie, l'oppression et l'idolâtrie, tant dans l'Église que dans l'État civil, sous lesquels le peuple de cette nation était tenu au jour de la puissance papale. Tel, dis-je, était l'extrême auteur de la cruauté et de la tyrannie de ce temps, que presque aucun de ceux qui craignaient ou révéraient mon Seigneur, en quel. Contre tout homme qui ne faisait qu'incliner vers lui et désirer la connaissance de ses voies, la gueule de l'enfer s'ouvrait contre eux, et ils étaient engloutis, et beaucoup de leur vie furent ôtés de la terre, par la puissance infernale qui ce jour-là avait usurpé l'autorité dans cette île. Et quand il en fut ainsi, alors il regarda du ciel, et ses entrailles de compassion furent émues, à cause du peuple opprimé qu'il désirait, à tel point qu'il brisa et renversa en quelque mesure la puissance de leur oppresseur, telle qu'elle se tenait dans l'autorité. Je dois vous le dire, c'est lui qui a tout conduit ainsi, jusqu'à la destruction de cette puissance dans cette nation et la délivrance de la nation d'elle. Bien que les hommes qui furent des instruments dans cette cause ne fussent pas ses serviteurs, pas plus que Nabuchodonosor ne l'avait été, car il a une manière secrète de se faire servir par les méchants, et sa puissance est telle qu'il peut tourner la méchanceté des méchants à sa gloire. Il peut faire de une verge pour frapper ses adversaires, puis la brûler quand il en a fini, et il a souvent détruit. Mais laissant cela, bien qu'il eût, dans une certaine mesure, délivré la nation d'une grande part de tyrannie et de cruauté en chassant l'autorité papiste pourtant, hélas. En quelques années, la nation fut presque autant violée par l'injustice et la cruauté, sous le pouvoir qui lui succéda, qu'elle ne l'avait jamais été sous la puissance papale. car auparavant il y avait eu quelques petites réformes et quelques changements d'apparence extérieure, mais peu en fond et en nature. Cependant l'oppression, l'idolâtrie et la superstition dans l'Église et dans l'État, et toute profanation et méchanceté parmi le peuple, étaient montées si haut comme elle l'avait fait sous la puissance papale auparavant, et tous ceux qui désiraient le Seigneur. Alors, à cause du cri du peuple et de l'oppression de la nation sous cette autorité, Monseigneur regarda de nouveau en bas, et pour l'amour de son nom et pour l'amour de sa semence, il eut compassion de cette nation pour la rendre libre et rompre ses oppressions, et dans une large mesure il délivra le peuple de cette nation en beaucoup de choses, et une part de réforme fut accomplie, et beaucoup fut prétendu et attendu, et tout cela arriva par lui, et Monseigneur l'accomplit. Cependant, les instruments dont il se servit se révélèrent trompeurs et devinrent oppresseurs, comme ceux d'avant eux, et bien qu'il y eût, dans cette nation, un temps de grandes troubles, de guerres et de créelles, de grandes luttes, d'effusion de beaucoup de sang et de gaspillage de trésors terrestres, aucune de ces choses, je dois vous le dire, ne survint sans l'ordonnance de la main de mon maître. Et pourtant, il advint qu'après le rétablissement de la paix, bien que beaucoup d'iniquités et d'injustices eussent été ôtées, beaucoup demeuraient, et les hommes qu'il avait employés comme instruments en sa main pour une bonne œuvre, auxquels il avait donné sagesse et intelligence, auxquels il s'était montré en grande miséricorde et dans une grande délivrance, se mirent à se chercher eux-mêmes et se corrompirent dans le butin de leurs ennemis. Quand la paix et l'abondance se multiplièrent, le Seigneur fut oublié de nouveau, et alors le pays tomba sous des oppresseurs et recommença à crier pour la liberté, et alors d'autres cornes de la première bête surgirent, et chacune alla à la suite de l'autre. Quoique l'une ait cherché à briser l'autre, pourtant, quand l'une était renversée, une autre se levait, faisait une image à la première, et régnait par le même esprit et la même autorité, tirée de la puissance du dragon en cruauté et oppression. Elle faisait des lois et les exécutait au déshonneur du Seigneur, à la grande oppression de son peuple, et remplissait cette île d'injustice et de cruauté, de génération en génération jusqu'à ce jour. Ainsi, tantôt en haut, tantôt en bas, les temps et les saisons ont été modifiés, les puissances et autorités changées et altérées, les statuts, les lois et les décrets changeants et modifiables. Car lorsque l'iniquité d'un pouvoir était à son comble, il était renversé, et un autre avait son jour, jusqu'à ce que sa mesure aussi fût remplie, afin qu'il subît les mêmes jugements. Dans tous ces renversements, abattements et bouleversements, se trouvait la main même de Monseigneur, quoique secrètement et sans être discerné, et pourtant sa puissance a fait venir et a permis toutes ces choses, et qui l'accusera d'injustice, ou qui dira « Qu'as-tu fait ?» ou « Pourquoi l'as-tu fait ?» Car, comme je l'ai dit, il est un prince élevé et puissant, et peut faire tout ce qu'il veut, il est la puissance et l'autorité souveraine qui gouverne et règne dans et sur tous les royaumes des hommes. Et quand bien même, il aurait employé des hommes méchants comme instrument pour accomplir son œuvre, et fait du méchant sa verge, et même amené à ce que l'une des méchancetés détruise l'autre, et qu'un oppresseur abatte un autre, et que le royaume de l'Antéchrist se confonde lui-même, que sont toutes ces choses. Toute chair doit se taire devant lui, et tout peuple, et la terre entière doit lui être soumise, car le gouvernement et la domination du ciel et de la terre sont à lui, et toute puissance et toute domination n'appartiennent qu'à lui, et tout jugement est en sa main pour accomplir ce qu'il veut et par qui lui plaît. Mais maintenant, mes amis, bien que je ne veuille pas vous importuner, je dois pourtant vous dire la vérité et la transmettre fidèlement. Et au sujet de ce dernier renversement, il y avait là quelque chose de la main de mon Seigneur, et il peut et il fera sortir de cela sa propre œuvre et sa louange. Et cela sera pour le bien de tout son peuple qui l'attend, bien qu'il y eût beaucoup d'ambition et des fins corrompues chez les instruments, et qu'aucune des deux parties n'ait été parfaitement simple et droite envers le Seigneur dans ses démarches, mais que, toutefois, le Seigneur peut faire surgir son gouvernement et sa plante agréable au travers et au-delà de tout cela, même d'une autre racine, qui n'apparaît encore chez aucun d'eux, et la justice peut s'élever dans la nation, contre l'un et contre l'autre, d'un autre rejeton, et il établira son royaume, et en attendant, laissera un tesson de la terre briser un autre tesson. Quant à vous, qui siégez maintenant sur le trône et portez le pouvoir, qu'il s'agisse du comité de sûreté ainsi nommé, principalement bien que cela ne se fasse pas sans mon maître, car il en a du moins connaissance, vous n'êtes pourtant pas les seuls hommes de son choix, véritablement appelés par lui à la place du gouvernement, et votre gouvernement n'est pas le gouvernement de l'agneau, et il ne doit pas être établi par lui pour toujours, son fondement n'est pas béni, et son édifice ne peut prospérer.
Tourcoing.
Hélas, ce n'est qu'une autre corne de cette quatrième bête, qui a été faite pour régner sur le monde et sur les hommes durant de nombreuses générations, et elle n'est qu'à peine affinée par rapport à la précédente, et elle est de la précédente, comme la huitième était de la septième, selon ce serviteur, Rêve 21-19. Elle peut aussi faire la guerre à l'agneau et à ses disciples pendant un petit temps, et elle peut produire dans le pays une petite mesure d'injustice et de persécution, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies et que son royaume. Votre gouvernement présent est à l'origine, le véné de l'esprit du vieux dragon qui a tué les saints et bu leur sang, comment le Seigneur l'établirait-il ? Non, votre royaume peut n'être que petit et bref, plein de tumulte et de troubles, avec peu de paix, de satisfaction et de stabilité pour vous-même ou pour le peuple soumis à vous. Mais la confusion l'accompagnera, et des craintes l'envelopperont. Pourtant, je dois vous dire ceci, en tant qu'homme, vous avez votre jour d'épreuve pour montrer ce que vous ferez, comme beaucoup d'autres avant vous. Et quelque chose vous pouvez et devez faire, ne serait-ce que de rendre la prostituée la fausse église plus nue et de la châtier davantage que certains autres ne l'ont fait. Et de fait, mon Seigneur exige de vous en tant que tel quelque chose de plus que ce que d'autres avant vous pouvaient faire. Et un prix a été mis entre vos mains que vous pouvez employer à l'honneur du Seigneur, au bien de la nation et à votre. Si vous agissez ainsi, alors mon Seigneur vous fera miséricorde, et vous ne tomberez pas soudain devant vos ennemis, bien que beaucoup puissent se lever contre vous. Mais vos jours seront prolongés, et le dessein du Seigneur pourra être tourné vers votre plus longue continuation, et non vers votre destruction soudaine. Et si vous marchez dans cette voie et ne gouvernez que pour le Seigneur, alors vous serez honorés comme des hommes, sinon comme une autorité, et vous et la nation serez préservés dans la paix, et la force des méchants sera repoussée, et vous ne tomberez. Les nombreux renversements récents dans cette nation peuvent vous servir d'exemple, afin que vous ne suiviez pas les traces de ce que Dieu a rejeté, de peur que vous n'arriviez à la même fin de confusion et de misère. Car quant à cette assemblée d'hommes qui a dernièrement siégé sur le trône, quelque chose a été fait par eux dans leur jour et en leur temps, et dans leurs deux assemblées, en certaines choses ils ont servi mon Seigneur, et ils ont été une verge en sa main pour frapper ses ennemis. Pourtant, ils n'ont pas été fidèles jusqu'au bout, jusqu'à ce que tous ses ennemis fussent détruits, mais se sont plutôt joints pour combattre le Seigneur et son peuple, et s'étaient vers la voie de l'oppression et de la persécution. Il était donc temps que le Seigneur les ôta et les... Quand le jour de leur épreuve fut terminé, que Dieu leur avait accordé, étant désormais pour le moment des instruments impropres à sa main, alors il les jeta au feu, et ce dessein s'accomplit sur eux de sorte que toute la nation doivent s'en contenter et se soumettre à ce qu'il a fait à leur égard. Car entrant dans le même esprit de méchanceté, d'oppression et de persécution que le Seigneur avait jadis repris par leurs moyens et chassé par leurs moyens, une verge fut levée contre eux comme il l'avait été contre d'autres, et ils furent traités. Et bien que certains d'entre vous, gouvernants actuels, soient regardés comme de grands traîtres et tyrans dans votre manière d'agir envers eux, et que sans doute les hommes de ce parti cherchent vengeance contre vous, même par la prédication et la prière, qu'ils vous maudiront au nom de leur Dieu, et chercheront continuellement votre destruction, comme de ceux qui ont ôté une partie de leur force et renversé leur idole, hélas, tout cela n'est rien, car le Seigneur ne juge pas comme les hommes, car ces choses doivent arriver ainsi pour l'avancement du royaume. Mais si vous, gens de l'armée, êtes toujours perfides et désobéissants envers lui, si vous abusez de votre pouvoir, méprisez le prix que Dieu vous a donné, gaspillez votre heure à des places d'honneur et à de telles affaires de recherche de soi, et que la cause de Dieu est négligée par vous, et que son peuple demeure opprimé et souffrant sous vous, comme il a été longtemps, alors vous serez mis de côté dans une honteuse disgrâce, et la main lourde du Seigneur sera sur vous en jugement, et vous serez frappés plus que tous ceux qui vous ont précédés, vos bien-être. Car si vous êtes infidèles et continuellement traîtres à la cause de Dieu, alors vous serez livrés à la volonté de vos ennemis, ils vous imputeront perfidie et trahison, vos personnes et vos biens seront donnés en proie à vos ennemis, et vous ne vous délivrerez pas vous-même, et le Seigneur ne vous délivrera pas de l'exécution d'hommes sans merci, car mon Seigneur laissera les cœurs cruels plaider contre vous. Ainsi la cause de Dieu ne tombera pas, et la cause de ses ennemis ne prospérera pas pour autant. C'est pourquoi, afin que vous soyez avertis, je vous conseille d'être fidèles, qu'il en soit ainsi pour vous, car il n'y a pas d'autre voie par laquelle vous puissiez être préservés, ni aucune autre défense que vous puissiez jamais trouver contre la colère du Seigneur et contre la fureur de vos ennemis dévorants, que votre fidélité dans la cause de Dieu. C'est pourquoi secourez les opprimés, ôtez toutes les oppressions, abattez toutes les lois injustes, et rendez tout le peuple libre de fardeaux injustes, que toute oppression cesse, tant dans l'Église que dans l'État civil. Voilà la substance même de mon message que mon maître m'a donné à vous dire, et en son nom, je suis venu réclamer de vous le droit de mon maître, longtemps perdu, qu'il est son droit, dont il a été longtemps banni. Je vous le demande à vous tous, quels que vous soyez, qui semblez exercer le pouvoir dans la nation. Je vous enjoins, en son nom, de lui laisser son titre et sa prérogative, qu'il soit seigneur et roi entièrement dans son propre royaume, qu'il ait par son propre esprit l'exercice des consciences de son peuple en toutes choses relatives à son culte et à son service, qu'il ait par son esprit la pleine autorité en toutes choses touchant l'Église et le ministère, la foi et la religion. Que son esprit ait seul l'autorité de persuader ou de dissuader les gens d'adhérer à tel ou tel ministère, culte et pratique religieuse, ou de s'en éloigner. Que tout entretien forcé des ministres et les dîmes soient promptement supprimés. Que toutes les lois et tous les décrets, quels qu'ils soient, établis et pratiqués au jour de l'Antéchrist sur les corps, les biens et les consciences du peuple, en oppression et en injustice concernant l'Église, le culte et la religion, soient totalement abrogés, annulés, et ne soient plus jamais en vigueur dans cette nation. Qu'au contraire, mon Seigneur soit seul souverain et gouverneur, et qu'il ait la pleine autorité dans son propre royaume, en toutes choses qui s'y rapportent. À l'avenir, aucun homme ne soit chargé des libertés des membres du royaume du Christ en tant que tel, ni ne juge sur en aucune matière de foi et de culte, si ce n'est ceux qui accordent ce droit et ce privilège entièrement à l'Esprit de Jésus-Christ, car c'est à lui seul qu'il appartient de juger en tout et d'avoir pleine puissance dans son propre royaume. Et tant que vous ne lui aurez pas donné ce droit, tant que vous ne lui aurez pas remis son propre royaume, et que vous ne lui aurez pas abandonné l'exercice des consciences des gens. Et donc vous, hommes, ne luttez pas contre lui en cette affaire, mais cédez-lui l'exercice de vos propres consciences par son esprit en vous. et laissez-le faire de même pour tous les autres, comme vous espérez prospérer, et sous peine de sa sévère indignation sur vous dans ce monde et dans le monde à venir, et que des hommes justes et des hommes droits et des hommes doux, et des hommes qui ont en eux la crainte et la sagesse de Dieu, sans exception de naissance ni autre considération, que de tels hommes aient la puissance et le jugement qui leur soit confié, pour trancher. Bas tous les flatteurs au cœur faux, qui ont gouverné pour l'homme et non pour Dieu, et pour eux-mêmes et non pour le bien du peuple, chassez tout cela du milieu de vous, car le bien qui est parmi vous est étouffé par eux. Abat tous ceux qui jugent pour des récompenses, et dehors tous les gouvernants mercenaires qui exécutent la loi pour de l'argent, et ne plaideront pas la cause du pauvre sans de grands honoraires, et abat tous ceux qui ne veulent pas servir dans des charges de confiance sans de si gros appointements. Ôtez toutes ces choses du pays, car ce sont de Dieu. C'est pourquoi le temps du Seigneur est venu de les détruire et de les ôter du pays. Et si vous êtes les instruments d'une telle œuvre, ce sera votre plus grande couronne et votre honneur perpétuel. Dessein du Seigneur est d'une manière ou d'une autre, de purifier le pays de toutes ses oppressions et de toutes les autres quelles qu'elles soient, afin que le peuple de ce pays soit un peuple libre de tous les lourds jougs de l'Antéchrist, qui l'ont si longtemps cruellement accablé, et le dessein du Seigneur est de briser les jougs de l'oppression et de la tyrannie qui pèsent sur la nuque de ce peuple, et c'est pourquoi il renverse, oui, et renversera tous les hommes et toutes les autorités qui s'opposeront à son œuvre, et nul ne pourra tenir devant lui, car l'après. Considérez donc, vous serez maudits si vous êtes infidèles dans ce que vous avez à faire au nom du Seigneur, car votre heure passe, celle qui vous est allouée, et elle expirera soudain pour ne jamais être rappelée, et alors vous ne pourrez plus agir. Tandis qu'il y a un grand cri au sujet du ministère, pour envoyer, entretenir et encourager, comme vous dites, un ministère pieux, à cela je réponds au nom de mon Seigneur, et je dois vous le dire clairement. Quand un véritable ministère pieux vraiment appelé et envoyé de Dieu, un tel ministère et de tels ministres, vous ne pourrez jamais les empêcher, mais le Seigneur les enverra, les entretiendra et les préservera, que vous le vouliez ou non. Et tandis que vous vous tourmentez au sujet d'une telle affaire, vous ne faites que vous mêler de chaud. Car il appartient à son gouvernement d'envoyer des ministres, qui il veut et comme il veut, et de les entretenir et de les défendre selon son bon plaisir, et tout cela sans vous. De tels ministres, vraiment appelés à cela et envoyés du Seigneur, ne viendront pas vers vous pour être envoyés ou entretenus par vous. Ils ne vous seront pas redevables en une telle chose, mais même sans vous, et contre vous, ils doivent être envoyés et entretenus, de sorte que le Seigneur aura dans cette nation un ministère purement à lui, et non de l'homme ni par l'homme, et un tel ministère vous ne pourrez pas l'empêcher. Je dois vous le dire clairement, quant à ces hommes appelés ministres dans cette nation, la manière dont ils sont établis et envoyés, la manière dont ils sont entretenus, la manière dont ils se maintiennent et se défendent, et en chaque détail de ce qui fait qu'ils sont tels, ils constituent la plus grande et la plus lamentable oppression dans la nation. C'est même par eux que s'exercent les cruautés et tyrannies les plus abominables et les plus injustes, autant que par toute autre chose dans la nation. Et ils sont, comme il a été dit auparavant, la cause funeste. Que dirais-je d'eux sinon ceci? La terre est opprimée par eux, les habitants gémissent sous eux, et le Dieu juste est irrité à cause d'eux. Ils sont les hommes même de haute indignation et de colère ardent, et toutes leurs pratiques en tant que telles sont le combustible de sa colère, destinée à être consumée par le feu de sa jalousie. La nation en est lasse et ses habitants, et le Seigneur est là à cause de ses hommes. Et est-ce là le ministère que vous vantez comme pieux et religieux? Sont-ce là les hommes que la nation doit être forcée d'entretenir dans leur orgueil et leur idolâtrie? Est-ce là le ministère qu'il faut encourager? Eh bien, si ce sont là les hommes, et ce ministère que vous devez établir et encourager, en le faisant vous ne prospérez jamais, mais vous attirez sur vous le déplaisir du Tout-Puissant, pour faire tomber une malédiction sur toutes vos entreprises, précisément à cause de cela, car je dois vous le dire, la main de mon Seigneur est contre eux, et quiconque cherchera à les défendre ne prospérera pas dans ses actions, parce que leurs oppressions, cruautés, tromperies et abominations touchent à leur terme, et vont être pleinement accomplis. Prenez donc garde à vous-même, car voici le conseil de mon maître pour vous. Laissez ce ministère en paix, et ne vous joignez pas à Baal de peur de périr. Ne prenez plus part avec l'Antéchrist, ne soyez pas des combattants contre l'agneau et son royaume, mais affranchissez la nation, et que tous ses habitants soient libérés des tâches cruelles et des jougs de tels hommes et d'un tel ministère comme il a été dit. Ne le soutenez pas contre le Seigneur, car si vous le faites, vous ne serez jamais affermis, et cela vous est dit de la bouche de mon Seigneur. Et enfin, mon maître a un peuple dans cette nation, un peuple souffrant, qui a porté le fardeau de la cruauté, de l'injustice et de la méchanceté, tant des gouvernants que des docteurs, qui, pour ainsi dire, les ont foulés aux pieds et en ont fait une proie pour leur bouche dévorante. Le cri même de leur souffrance est parvenu jusqu'au ciel, et le son même en est parvenu à vos oreilles. Et ce peuple est grandement aimé, et mon Seigneur l'honora assurément, et sa main continuera de les préserver et de les défendre contre tous leurs ennemis quels qu'ils soient. Il les réserve pour lui-même, et pour une œuvre glorieuse qu'il a à accomplir par eux, il les a formés pour lui-même, et ils ne peuvent s'allier à aucune des cornes de la grande bête. Et nul lieu d'honneur ne peut les détourner de leur voie parfaite, mais mon Seigneur les entoure de toutes. Ils sont à lui, et non à eux-mêmes, et ils doivent accomplir sa volonté, et aucune autre, et ils reposent en lui, tandis que des montagnes sont renversées, et tandis qu'un tesson de la terre en brise un autre, et cela doit être ainsi jusqu'au temps fixé. Sans en dire davantage d'eux, bien que l'on puisse en dire bien plus, ils sont en mémoire devant le Seigneur, afin qu'il agisse avec eux pour sa propre gloire et pour le bien durable de cette nation. et devant l'autorité du Très-Haut, par eux les rois de la terre et les nations du monde se courberont et trembleront. C'est pourquoi vous, hommes, ne les touchez pas, ne les affligez pas, comme vous espérez prospérer, souvenez-vous de leur cause, et ne permettez pas qu'elle soit toujours rejetée, comme elle l'a été si longtemps, mais gardez-vous de l'injustice et de la cruauté de ceux qui vous ont précédés, qui ont été sans pitié et oppresseurs de ce peuple, jusqu'à ce que mon Seigneur les ait confondus et jetés dans la confusion. Car le poids du sang, de la tyrannie et de l'oppression pèse sur la nation à cause de la cause de ce peuple, et mon Seigneur les vengera en son temps. Et bien qu'il ne soit pas là de leur souffrance, mais qu'il soit dans la patience qui supporte toute chose, pourtant la nation ne pourra jamais être heureuse, ni son gouvernement jamais béni, tant que ce peuple sera tenu en servitude, et leurs souffrances sont profondément prises en considération par le Seigneur, et le temps en arrive à son terme, et quand cela se produira, alors malheur. Béni soit l'homme qui l'attend, et béni soit celui qui n'est pas scandalisé de sa venue, mais qui est prêt à le recevoir lors de sa manifestation, qui survient soudainement sur le monde entier. Ainsi vous ai-je transmis le message présent du Seigneur à votre intention, que j'ai reçu de lui, et jusqu'ici je suis dégagé, et que vous l'acceptiez ou le rejetiez, ma paix et ma récompense sont à jamais avec lui, dont je suis un sujet du royaume, et un ami de cette nation, quelle que soit la manière dont je suis jugé par des hommes ignorants. Edward Burroughs, le 9e mois, 1659. Avec quelle force la prophétie annonce ce qui advint plus tard. Vos biens ne seront pas épargnés par le pillard, ni vos coups par la hache, vos ennemis vous accuseront de trahison. Et si vous cherchez à arrêter l'œuvre du Seigneur, vous n'encombrerez pas la terre bien longtemps. Monk s'apprêtait à entrer en Angleterre avec l'armée depuis l'Écosse, puis vint la Restauration, avec son cortège d'emprisonnement, de bannissement, de confiscation et de mort. Chapitre X au 9e mois de 1659, après avoir écrit l'adresse au gouvernant donnée dans notre dernier chapitre, Edward Burroughs avait quitté Londres. Ce même mois, nous le retrouvons à East Hampstead, dans le Berkshire, à une controverse publique, tenue à l'initiative du prêtre Christopher Fowley et de quelques-uns de ses confrères du clergé. Deux thèses affirmées ce jour-là par le prêtre étaient que les Écritures sont le glorieux fondement éternel des fondements, et aussi qu'un homme peut, en même temps, être un ministre du Christ et un trompeur. Il semble que peu de bien soit sorti de cette rencontre, car Fowley se retira hâtivement, et Edward chercha en vain à obtenir une autre occasion de le rencontrer. Le 26 du 9e mois, peu après qu'Edward eut quitté ce voisinage, Christopher Fowley rédigea un écrit contre le peuple appelé Quakers, composé de 10 points. Il disait être en mesure de soutenir ces accusations contre eux, et il était disposé à les laisser choisir eux-mêmes le moment d'un débat public, et cela pouvait être aussitôt qu'ils le souhaitaient. Edward Burroughs reçut une copie de l'écrit de Fowley, et lui fit savoir que le 4e jour, le 21 du 10e mois, il le rencontrerait à Reading. Fowley ne désirait peut-être pas débattre avec Edward, en tout cas, il déclina de le rencontrer au lieu et à la date fixée, bien que, dans sa provocation, il eût laissé le choix aux Quakers. Il dit que Reading n'était pas un endroit convenable, proposa Rockingham dans le même comté, et suggéra un autre moment. Edward vint à Reading 2 jours avant la date qu'il avait fixée pour la controverse, et là il reçut la réponse du prêtre. Il avait prévu des réunions en plusieurs lieux, et il constata qu'il ne pouvait pas être à Rockingham au moment indiqué. Il considérait aussi Reading, la ville où Fowley prêchait, comme l'endroit le plus approprié pour la controverse. En conséquence, il écrivit à Fowley pour lui faire savoir qu'il était à Reading, prêt à débattre avec lui, mais qu'il ne pouvait pas être à Rockingham au moment qu'il avait fixé. Fowley répondit qu'il ne le rencontrerait pas à Reading, car il n'y avait là aucun besoin de débat. Edward, voyant que la controverse publique allait échouer, répondit aux accusations par écrit. Thomas Curty était avec Edward dans ses voyages à travers l'Hertfordshire, et peut-être James Naylor. Ils passèrent vers le nord dans le Buckinghamshire et au 10e mois, tinrent une réunion en un lieu appelé The Grove, à environ 1 mile de la maison d'Isaac Pennington. Cette réunion fut remarquable en ce qu'elle fut celle où Thomas Elwood fut convaincu de la vérité du cacrisme. Tout le service ministériel de la réunion reposa sur Edward. Thomas dit que le ministère non seulement convainquit son entendement, mais réchauffa son cœur d'un battement qu'il n'avait jusque-là jamais ressenti sous le ministère d'aucun homme. Lorsque la réunion fut terminée, les 3 amis allèrent à la maison d'Isaac Pennington, où Thomas Elwood, avec son père et ses sœurs, était en visite. Dans la conversation avec Edward, le père de Thomas avança la doctrine calviniste de la prédestination personnelle, en opposition à la grâce libre universelle de Jésus-Christ, mais il se trouva bientôt à court d'arguments pour soutenir sa position. Edward répondit peu, mais James Naylor prit le sujet, et comme le dit Thomas, le traita avec tant de perspicacité et de démonstration claire que son raisonnement paraissait irrésistible, et je suppose que mon père le trouva ainsi, ce qui le rendit disposé à laisser tomber la discussion. Quant à Edward Burroughs, c'était un jeune homme vif à la langue prompte. Le lendemain matin, nous nous préparâmes à rentrer chez nous, c'est-à-dire mon père, ma plus jeune sœur et moi. Et après avoir pris congé de nos amis, nous sortîmes, eux accompagnant Edward Burroughs jusqu'à la porte. Là, il adressa à chacun de nous quelques mots, séparément, selon le sentiment qu'il avait de nos conditions respectives. Et lorsque nous fûmes partis et qu'ils furent rentrés, ils lui demandèrent ce qu'il pensait de nous. Il leur répondit, comme ils me le dirent ensuite, en substance, « Quant au vieil homme, il est fixé sur Sally, et la jeune femme est légère et aérienne, mais le jeune homme est atteint et pourrait bien faire s'il ne le perd pas. » Assurément, ce qu'il me dit, ou plutôt l'esprit dans lequel il le dit, s'empara si fortement de moi que je sentis une tristesse et un trouble m'envahir, bien que je ne comprisse pas distinctement ce qui me troublait. Quelques semaines après cet entretien, Thomas Elwood, allant avec Isaac Pennington à une réunion à Wickham, rencontra de nouveau Edward Burroughs, qui y était venu d'Oxford. C'était une réunion mensuelle, composée principalement d'amis, qui s'y rassemblaient de plusieurs parties de la contrée d'alentour, de sorte qu'elle était assez grande. Thomas Elwood dit « Ce fut une très bonne réunion en elle-même et pour moi. Le ministère d'Edward Burroughs se déploya parmi nous avec vie et puissance, et l'assemblée en fut couverte. Moi aussi, selon ma faible capacité, j'y pars, car je sentis une part de cette puissance divine travailler mon esprit en une grande tendresse, et non seulement me confirmer dans la voie où j'étais déjà entré, et me fortifier pour y persévérer, mais aussi déchirer le voile un peu plus loin, et éclairer mon entendement sur d'autres choses que je n'avais pas vues auparavant. » Edward Burroughs rentrant chez lui avec Isaac Pennington, il m'invita à revenir avec lui, ce à quoi je consentis volontiers. Car l'amour que j'avais plus particulièrement pour Edward Burroughs, par le ministère duquel j'avais reçu le premier coup d'éveil, me poussa à désirer sa compagnie, et ainsi nous partîmes ensemble à cheval. Mais je fus quelque peu déçu dans mon attente, car j'espérais qu'il m'aurait donné à la fois l'occasion et l'encouragement de m'ouvrir à lui, et de répandre dans son sein mes plaintes, mes craintes, mes doutes et mes questionnements. Mais lui, sentant que j'étais réellement touché, que le témoin de Dieu était éveillé, et que l'œuvre de Dieu avait bien commencé en moi, choisit de me laisser à la conduite du bon esprit en moi, le conseiller qui pouvait résoudre tous les doutes, afin que je n'aie aucune dépendance envers l'homme. Ainsi, bien qu'il fût naturellement d'un tempérament et d'une conduite ouverts et libres, et qu'ensuite il fût toujours très familier et affectueusement bon envers moi, pourtant, à ce moment-là, il se tint quelque peu réservé et ne me montra qu'une bonté ordinaire. Le lendemain, nous nous séparâmes, lui pour Londres et moi pour la maison. C'était vers le commencement du 11e mois. Ce même mois, Edward écrivit un post-scriptum au Rot of New England Rodden Through Wickedness de Francis Haugill. Il contient une vive réprimande à l'adresse de ce peuple endurci, épris de liberté, mais aussi restrictif de la liberté. Il se conclut ainsi. « Oh, avez-vous oublié depuis que vous étiez vous-même des souffrants? Alors tout allait bien pour vous, bien mieux que maintenant. Vous êtes à l'aise dans la chair et vous avez oublié Dieu et perdu cette sincérité qui jadis était en vous. L'esprit même des anciens évêques qui autrefois vous persécutaient est entré dans vos cœurs, et maintenant vit en vous et agit en vous. Au jour de votre prospérité, vous vous êtes élevé, et vous avez oublié le Seigneur, et vous lui rendez le mal pour son amour. » Cela décrit très bien l'esprit manifesté à l'époque où cette lettre fut écrite, et durant de nombreuses années auparavant, par les magistrats et les prêtres de la colonie du Massachusetts. Edward ressentait, avec une acuité très sensible, les souffrances de ses compagnons de foi, et il travailla ardemment, de diverses manières, à faire cesser la persécution qui faisait alors rage contre eux en Nouvelle-Angleterre. Le 24 du 11e mois, il écrivit la lettre suivante au Parlement aujourd'hui des épiscopaliens royalistes. « Amis, tous ces renversements, et ces changements presque merveilleux, ont été accomplis par la justice de la main du Seigneur. Vous êtes maintenant de nouveau à la barre du gouvernement et sur le trône, et je ne puis que dire que cela vient du Seigneur et par le Seigneur, et qu'il l'a fait contrairement aux attentes de beaucoup, et quelle est sa fin en cela demeure en lui. Mais je suis sûr qu'une des raisons est que vous puissiez exercer une part de sa colère sur cette génération traîtresse d'hommes hypocrites et trompeurs, certains de l'armée, je veux dire. Je n'ai pas besoin de vous dire comment beaucoup d'entre eux furent élevés d'un état bas, et au lieu de servir la nation, en devinrent les seigneurs et les oppresseurs. Ils ont abusé de la miséricorde du Seigneur envers eux, se sont exaltés eux-mêmes, et sont devenus de grands oppresseurs, et aussi pénibles pour la nation que ceux qui les avaient précédés. Certains d'entre eux prirent même les dîmes et les biens de leurs ennemis, et suivirent aussi leur mauvais esprit, bien que le Seigneur fût patient envers eux, et leur ait donné un jour, et mis une occasion entre leurs mains, où ils auraient pu faire le bien. Mais ils ont aussi négligé de servir Dieu et la nation, pour se servir eux-mêmes, et à cause de l'ambition et de l'orgueil de quelques-uns d'entre eux, le Seigneur leur permit de faire cette dernière interruption contre vous, ce qui fut une grande trahison au jugement des hommes, afin que leur mesure fût comblée, et qu'ils vous donnât occasion contre eux, et vous laissâtes être remplis d'indignation à leur égard pour les briser en pièces. Ce que vous faites à certains d'entre eux, en les chassant et en les affligeant, vous n'êtes que les exécuteurs de Dieu en cela, vous êtes les exécuteurs de sa colère dans ce que vous leur faites, et qui vous empêchera, ou l'empêchera, lui, d'aller de l'avant. Car ils ont assez longtemps dissimulé avec cette nation, professant plus que les autres et faisant moins, et leur chute est maintenant. Dieu a vu en vous des gens assez durs de cœur et cruels, et très propres à être des exécuteurs de vengeance sur de tels hommes que ceux que j'ai mentionnés. Mais maintenant, vous concernant, vous et votre état présent, puisque vous êtes en place et en pouvoir, j'ai quelque chose à vous dire. Bien qu'ils soient tombés et que vous teniez encore debout, et que vous ayez un peu de temps après eux, ne vous glorifiez pas de leur chute, et ne vous vantez pas comme si vous deviez subsister à jamais, car ils n'étaient pas de plus grands pécheurs que vous, et vous n'êtes pas d'une once plus juste que certains d'entre eux, mais vous êtes aussi sûrs de tomber qu'ils sont tombés, avec une mesure de déshonneur et d'affliction non moindre que celle qui leur est arrivée, et vous êtes dans votre dernière heure. Je dois dire que Dieu attend bien plus de vous que la fin susdite, à savoir, être les exécuteurs de justice sur des hommes aussi pécheurs que vous-même, ne vous glorifiez donc pas de ceux qui sont tombés. Mais sachez que votre temps aussi est bref, et que votre chute peut s'avérer votre destruction, tandis que la leur peut les améliorer et les purifier. Si Dieu vous a choisi pour exécuter une part de sa colère sur eux, à cause de leur méchanceté, il trouvera sans doute des instruments pour exécuter sa colère sur vous, sinon il le fera de ses propres mains, car il ne se propose pas de vous épargner, car vos péchés crient aussi fort que ceux des autres, et les oppressions sont aussi grandes sous vous que sous ceux que vous condamnez. Je souhaite, s'il y a parmi vous des hommes de bien, que ceux qui sont sages considèrent et observent la main du Seigneur dans et à travers toutes ces choses qui sont arrivées. Car Dieu œuvre tout autant que vous, il cherche à établir un royaume tout autant que vous, et son gouvernement et le vôtre ne peuvent subsister ensemble, et il vous fera savoir qu'il est plus fort, et que son gouvernement a plus de force, et que votre royaume ne peut tenir place à côté du sien. C'est pourquoi, oh si vous preniez garde, oh si vous étiez sage, s'il en était ainsi, certains d'entre vous pourraient être épargnés. Ne soyez pas trop zélés dans votre voix, ni trop furieux dans vos démarches, mais faites aux autres comme vous entendez recevoir des autres et du Seigneur. N'allez pas au-delà de votre commission, car vous avez reçu au moins une permission de Dieu, même pour châtier des hypocrites, et pour être un jugement sur cette génération d'hommes hypocrites et de religiosité apparente susdite, qui bien des fois, pour ainsi dire, a tourné Dieu en dérision, et lui a feint l'amour des lèvres, tandis que leur cœur soupirait après l'honneur de soi-même et les trésors de ce monde. Je dis, votre heure présente et votre permission sont pour cette fin, mais non pour persécuter le peuple du Seigneur, ni pour détruire l'héritage de Dieu, mais si vous étendez votre pouvoir à une telle œuvre, et si vous persécutez l'innocence en cause, et faites la guerre contre l'agneau et ses disciples, et faites des lois et les exécutez pour opprimer les saints du Très-Haut, alors vous allez au-delà de votre commission, car Dieu ne vous a pas appelé à cela, mais à être des instruments dans une autre cause. Les enfants de Sion se confient dans le Dieu vivant, et ne craignent pas la terreur des hommes puissants. Ils ne peuvent être effrayés par le mugissement de la mer, ni par les menaces présentes des païens, car Dieu est avec eux. Je vous dis, le serviteur du Seigneur a pesé et considéré toutes ses démarches, et a regardé l'état présent des choses en ce jour, et il n'y a pour vous, de la part de Dieu, aucune vision de paix et de consolation, ni d'un gouvernement heureux et durable, tel que vous vous tenez. Si quelque prophète vous en fait une divination, il dit ce qu'il n'a pas reçu du Seigneur, mais la vision de son propre cœur, et il vous trompe et se trompe lui-même, car vous n'êtes pas établi sur un juste fondement, et vous n'êtes pas mû par un esprit droit, qui puisse réellement gouverner pour Dieu, mais l'esprit de colère et de fureur a été mis en vous pour l'œuvre à laquelle vous êtes appelé. Je ne sais comment vous avertir afin que vous ne persécutiez pas le peuple de Dieu. Car pourquoi, peut-être, devez-vous par là combler votre mesure de méchanceté, afin que Dieu vous brise à jamais, pourtant votre jugement sera moindre si vous ne le faites pas. Mais si vous le faites, le Seigneur prendra occasion contre vous pour vous frapper, et vous ne serez jamais guéri, et comme vous affligez les autres, ainsi et bien davantage cela vous sera fait par le Seigneur. Considérez donc ce que j'ai dit, car c'est là la vision du Tout-Puissant pour vous, qui ne restera pas sans accomplissement. Ce que vous faites, vous devez le faire vite, car votre temps est court et votre puissance Dieu la soumettra, et son royaume et sa puissance, il les élèvera promptement au-dessus de vos têtes et fera connaître à vous et aux nations qu'il est Dieu, que toute puissance est avec lui, et qu'il peut faire tout ce qu'il veut, et que le droit de régner n'appartient qu'à lui, et que la part de ses enfants est de posséder le royaume avec lui. Que toute la terre et toutes ses puissances se courbent et tremblent devant lui, que vos cœurs ne soient pas orgueilleux et rebelles contre lui, car il peut vous réduire en poudre, et vous plongez dans la confusion et la misère, comme une pierre dans la mer. Edward Burroughs, le 24 du 11e mois, 1659. Suite. Le but de ce site web est de montrer comment être délivré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, qui conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.